à partir de 18h30 temps universel et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
Rebonsoir, au micro Idrissa Sédoudia pour ce second bulletin d'information de la soirée. Le premier ministre du Lesotho s'est réfugié en Afrique du Sud pour échapper à ce qu'il a appelé une tentative de coup d'État dans ce petit royaume d'Afrique australe. Des témoins disent avoir entendu des tirs aujourd'hui à Maseru et vu des soldats en patrouille dans les rues de la capitale, occuper des bâtiments gouvernementaux et encercler la résidence officielle du premier ministre Thomas Thabane, qui dit avoir fui quand il a été informé d'un prochain attentat de l'armée contre sa vie. Dans une interview à La Voix de l'Amérique, le premier ministre a promis de retourner au Lesotho dès qu'il se sentira en sécurité. L'armée dément avoir tenté un coup d'État, disant que son opération ne visait qu'à désarmer des éléments de la police, soupçonnés de vouloir armer une faction politique. L'armée assure qu'elle a regagné ses casernes et que la situation est revenue à la normale. En Somalie, les forces gouvernementales appuyées par les troupes de l'Union africaine ont repris Boulo Maraire dans le sud-ouest du pays et plusieurs villages voisins dans le cadre de leur offensive contre Al-Shabaab dans la région de Bas-Chabelle. Dans une interview à La Voix de l'Amérique, le gouverneur local Abdikadir Mohamed Nour a dit que la ville a été reprise aujourd'hui. Les forces alliées se dirigent maintenant vers la ville portuaire de Baraoué, un bastion d'Al-Shabaab. Le gouvernement libérien a levé la quarantaine qu'il avait imposée à West Point, un quartier de Monrovia, dans une tentative de bloquer la propagation de l'épidémie d'Ebola. La mesure a été accueillie avec joie par la population et a amené les boutiquiers à rouvrir leurs portes. L'imposition soudaine de la quarantaine il y a 10 jours avait provoqué des accrochages entre la police anti-émeute et les habitants de West Point qui craignaient des pénuries de vivres et d'eau. Pour sa part, la Guinée a imposé un couvre-feu à Zérékoré, la seconde ville du pays, après que les habitants eurent saccagé un marché. Plus de 20 personnes ont été blessées. Selon l'OMS, plus de 1 500 personnes ont été tuées au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria par l'épidémie d'Ebola, qui a maintenant atteint le Sénégal. Le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a mis en garde aujourd'hui contre un point de non-retour dans la crise en Ukraine. Le président de ce pays, Petro Poroshenko, discute à Bruxelles de ce conflit avec les leaders de l'Union européenne. M. Barroso réagissait ainsi aux informations faisant état de nouveaux gains des séparatistes pro-russes face aux forces gouvernementales dans l'est de l'Ukraine. Mais M. Barroso estime que la porte reste ouverte à une solution politique. Pour sa part, le président François Hollande de France a préconisé de nouvelles sanctions contre la Russie. Le secrétaire d'État américain John Kerry appelle à une large coalition internationale pour combattre les militants de l'État islamique. Dans un article publié aujourd'hui par le New York Times, M. Kerry a qualifié ce groupe terroriste de menace grandissante non seulement en Irak et en Syrie, mais partout où ses membres peuvent voyager sans être détectés, y compris les États-Unis. Pour le chef de la diplomatie américaine, les combattants de l'État islamique font montre d'une cruauté et d'une sauvagerie répulsive, mais la plus large coalition possible de nations peut, sous l'égide des États-Unis, leur barrer la route avec, je cite, une réponse unie. 32 casques bleus ont été exfiltrés suite à de violents combats dans le Golan syrien occupé par Israël. Les Nations Unies ont déclaré aujourd'hui que 40 soldats onusiens essuient toujours des tirs près de la frontière entre la Syrie et Israël. Selon le ministre philippin de la Défense, des militants ont attaqué un des camps des casques bleus.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel, et les matins du lundi au vendredi, à partir de 5h30, TU.
le magazine féminin de la Voix de l'Amérique.
Nous sommes avec Robert Piper, sous-secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel. Bonjour.
Bonjour.
À l'occasion notamment de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, vous avez lancé une campagne qui s'intitule « Le monde a besoin de plus de héros humanitaires ». Mais dans un premier temps, justement, Monsieur Piper, est-ce que vous pourriez nous dresser un plan un petit peu de la situation, surtout au niveau de la coordination dans votre région, dans la région dont vous vous occupez, le Sahel, la région sahélienne ?
Effectivement, dans la région du Sahel, on parle de 9 pays avec une population d'à peu près 145 millions de personnes. C'est une région assez importante, avec des taux de croissance démographique assez élevé aussi, donc une région qui va se doubler en population à 23 ans. Nous faisons face à des défis humanitaires très élevés encore en 2014. Des défis d'un côté chronique et de l'autre côté ponctuel, aigu, disons. Côté chronique, au-dessus de 20 millions de personnes dans cette région du Sahel sont à risque d'insécurité alimentaire. Parmi eux, 5 millions déjà dans une situation de crise. On a à peu près encore cette année 5 millions d'enfants mal nourris à des niveaux vraiment aigus, un montant très élevé dont nous devons répondre bien sûr le plus vite possible. À peu près 17 millions de personnes à risque d'épidémie maintenant que la pluie commence. La région fait face quand même aussi à des déplacements très importants à cause de l'insécurité et le conflit. Au Mali, le nord de Mali, bien sûr, on a vu beaucoup de problèmes, beaucoup de déplacements internes. Des réfugiés maliens qui se trouvent aujourd'hui au Burkina, au Niger, en Mauritanie. On a des réfugiés qui arrivent du Darfour au Soudan et surtout maintenant récemment de la République centrafricaine où 200 000 réfugiés évacués de ce pays en crise se sont trouvés au Cameroun, au Tchad, aussi des pays du Sahel. Et finalement, le nord de la Nigeria qui est aussi en crise, qui crée un déplacement de réfugiés qui traversent la frontière juste au Niger ou au Cameroun, ou bien des déplacés internes qui ont besoin de beaucoup de soutien.
Alors, vous avez dressé une liste effectivement assez longue de tous ces défis à relever avec ces nouveaux affrontements. Et vous, dans tout ça, vous devez jongler un petit peu. C'est ce que vous venez de nous expliquer, en somme. Il y a un conflit qui se termine plus ou moins ou qui n'est pas terminé. Puis après, il y en a un autre qui débute et il faut tout recommencer. Et en plus de cela, Ebola. Vous avez parlé d'épidémie de déplacement. Alors, quelle est la crainte de l'ONU au niveau humanitaire, justement, pour gérer cette crise ?
Aujourd'hui, l'Ebola est dans des pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout bien sûr la Libéria, le Sierra Leone, et le Guinée et la Nigeria à une échelle pour l'instant assez petite. Ce n'est pas d'arriver dans la région du Sahel directement jusqu'à présent. Nous espérons bien sûr que ça va continuer à être le cas, mais nous avons beaucoup de soucis bien sûr à la capacité de nos systèmes de gestion sanitaire de faire face à une épidémie d'Ebola dans les pays de la région. Je dois dire que les gouvernements de la région prennent pas mal de précautions aujourd'hui. D'équipement, il y a beaucoup de travail de communication avec le public pour expliquer un peu mieux cette maladie, ce virus. Donc il y a quand même un effort préventif, mais certainement ça sera une catastrophe si on se trouve d'ici demain avec une épidémie importante d'Ebola dans des pays du Sahel même.
Alors à propos du Nigeria, vous avez parlé tout à l'heure de la question sécuritaire. Vous avez plus ou moins affaire à certaines zones vraiment à l'extrême nord du Nigeria. Ces jeunes filles kidnappées, on n'en parle plus du tout. Et l'on apprend après tout cela que finalement les enlèvements, c'est monnaie courante. Au niveau humanitaire, qu'est-ce qu'il y a à dire dans cette région ? Est-ce que vous pouvez atteindre les populations ?
Nous arrivons avec beaucoup de difficultés à atteindre ces populations. La situation est très, très grave, j'avoue, et ça ne s'améliore pas. La situation continue à être très sérieuse. Nous nous occupons aujourd'hui de pas mal de réfugiés qui sont arrivés à la frontière camerounaise ou bien au Niger, au sud du Niger, où d'ailleurs, c'est des communautés mêmes qui prend charge dans leur ménage directement. Donc c'est assez extraordinaire comme réponse solidaire parmi les communautés les plus pauvres du monde. Dans le pays même, au nord-est du Nigeria, nous avons des équipes humanitaires qui travaillent à côté de certains services étatiques du nord, mais aussi de la Croix-Rouge nigérienne. C'est un travail très difficile. L'accès est très difficile à cause de l'insécurité, bien sûr. Nous avons une équipe dans la région et à Bauchi, juste à côté, qui voyage pas mal pour distribuer l'assistance. Mais on travaille surtout avec les services étatiques de santé, d'éducation et les agences de gestion d'urgence des États du Nord-Est du Nigeria.
Alors, la campagne de l'ONU s'intitule « Le monde a besoin de plus de héros humanitaires ». Alors, qu'est-ce que cela veut dire, sachant que ces gens courageux, ils existent et ils sont très nombreux?
Bon, je pense surtout, le message, c'est de reconnaître cette force, ces travailleurs humanitaires qui travaillent aujourd'hui, d'ailleurs, des héros humanitaires qui travaillent de jour en jour dans des régions très dangereuses, dans des situations très, très difficiles, physiquement, psychologiquement. Ils sont d'ailleurs surtout des acteurs des communautés locales, nationales, qui font du travail extraordinaire avec les ONG, mais aussi avec les services étatiques. Et moi-même, je voyage beaucoup dans les régions et je vois le travail aussi de ces acteurs étatiques. Mais deuxièmement, un message de s'assurer qu'il y a quand même une protection pour ce genre de travail. L'année dernière, on a vu une augmentation dramatique de fatalité des travailleurs humanitaires. Au-dessus de 155 de nos collègues ont perdu leur vie. 134 ont été enlevés. 170 ont eu des blessures très graves. Et je répète, surtout, c'est des nationaux, c'est pas nécessairement des expatriés. Déjà en 2014, on a perdu 79 de nos collègues, surtout en Syrie, en Afghanistan, au Soudan du sud du Soudan. C'est des chiffres élevés, c'est une honte. Il n'y a pas un respect pour leur facilité leur travail.
Qu'est-ce que vous auriez à dire sur les questions de déplacement, notamment en Irak, en Syrie? Est-ce que les Nations Unies et leurs partenaires disposent de suffisamment de financement pour gérer ces crises?
Je sais que récemment, on a dépassé quand même 50 millions de personnes déplacées dans le monde. C'est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est un chiffre extraordinaire. Ça met des pressions très importantes sur la capacité des bailleurs de fonds de soutenir un travail humanitaire à une telle échelle. Donc, nous nous trouvons tous au Sahel, au Soudan, en Somalie, en Syrie, en Afghanistan, en Irak, avec des grands déficits financiers, des grands besoins. On arrive à des besoins au-dessus de 17 milliards de dollars pour le monde en 2014, le chiffre le plus élevé jusqu'à présent. Je dois reconnaître aussi que les gouvernements qui nous soutiennent, surtout la communauté européenne, le gouvernement des États-Unis, les gouvernements nordiques, etc., le Japon, eux aussi trouvent de plus en plus de difficultés à arriver à soutenir une opération. L'Arabie saoudite a effectivement donné un don très important à l'opération de l'Irak. Nous comptons sur beaucoup de nouveaux bailleurs des pays émergents à partager un peu ce fardeau financier.
Merci beaucoup Robert Piper. Je rappelle que vous êtes sous-secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire régional pour le Sahel. Bon courage, à très bientôt.
Au revoir, merci Nathalie.
Entre parenthèses.
Vous écoutez le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge. À présent, une discussion avec le chef de mission de Finchurch Aid à Bangui en Centrafrique, Andrea Trevisan. Alors, Monsieur Trevisan, vous êtes à Bangui au sein de votre ONG et notamment, vous avez réhabilité une école. Pourriez-vous nous parler un petit peu de l'histoire de cette école ?
L'école Malimaka est située au 5e arrondissement à Bangui, un arrondissement qui a été beaucoup touché par les violences au courant de la crise qui a eu lieu en Centrafrique. En particulier, c'est une école qui a été occupée par les groupes armés et lourdement saccagée et pillée. Donc, à la rentrée, depuis la réouverture officielle de l'année scolaire, le 3 mars 2014, nous avons jugé pertinent pouvoir essayer de redémarrer au plus vite possible les infrastructures scolaires dans les quartiers touchés par la violence. Aussi parce que les enfants qui étudient dans nos espaces temporaires venaient en majorité des écoles, dont une, c'est l'école Marimaka. l'arabisation était un pas nécessaire, avec notamment des activités de complément qui sont dans la remise d'équipes scolaires, l'équipement qui était fourni par notre partenaire, mais aussi un gros travail de sensibilisation auprès des parents des élèves pour pouvoir les motiver à faire revenir les enfants à l'école.
Est-ce que vous avez l'habitude de réhabiliter des écoles? Est-ce que vous avez fait cela sur plusieurs écoles éventuellement?
Oui, grâce au soutien des différents bailleurs, FinChurchAid maintenant travaille sur près de 50 écoles à Bangui, dans 3 autres préfectures dans l'ouest de la Centrafrique. Donc on estime pouvoir toucher et faire bénéficier près de 25 000 enfants grâce à nos activités.
Au niveau de l'école primaire, à peu près combien d'enfants à Bangui ont repris le chemin de l'école?
On estimait qu'il y avait 25 000 enfants qui étudiaient dans les espaces temporaires. Entre 7 000 et 9 000 commencent à retourner à les chemins de l'école. Malheureusement, il y a encore un bon pourcentage d'écoles qui à Bangui n'ont pas réouvert parce que les interventions de réhabilitation sont en cours, parce que les enfants ont fui au Cameroun, parce que les enseignants ont encore fui. Donc, il y a une très bonne amélioration par rapport aux derniers 3 mois, mais il y reste encore beaucoup à faire.
Est-ce que vous pensez que certaines régions qui ont été longtemps et encore maintenant exposées à la violence armée vont pouvoir permettre à leurs enfants de reprendre les chemins de l'école?
On voit que dans des programmes similaires, dans l'ouest du pays, il y a des améliorations sensibles, surtout aux côtés de la frontière avec le Cameroun. L'école est souvent un des besoins et des facteurs qui motivent les gens à revenir au village le plus rapidement. Donc on souhaite s'engager davantage pour que tous les gens qui souhaitent rentrer dans leur milieu puissent avoir l'opportunité d'envoyer leurs enfants à l'école.
Mais est-ce que toutes les structures sont là et toutes les garanties sont bien réunies pour cela?
Les efforts doivent se faire un pas à la fois, mais on est heureux de voir qu'il y a la volonté à plusieurs niveaux de pouvoir revenir rapidement dans une situation de normalité. Et on espère que la communauté internationale n'aille pas épargner les efforts pour soutenir le secteur éducatif dans les moyens et dans les longs termes. Parce que nous, on croit qu'investir dans l'éducation, c'est investir dans la paix. Donc, ça représente d'avoir sorti de la crise centrafricaine et pouvoir démarrer de la meilleure forme l'année scolaire le mois de novembre.
Merci beaucoup pour ce regard positif, Monsieur Andrea Trevisan, chef de mission de FinChurchAid.
Parole de femme.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique et c'est le magazine au féminin. Avec Nathalie Barge, à présent, revenons sur la journée panafricaine de la femme avec un reportage de notre correspondant à Bamako, au Mali, Kassim Traoré.
Les femmes du Mali, à l'instar de leurs sœurs d'Afrique, ont célébré la journée panafricaine de la femme, fêtée le 31 juillet de chaque année. Rôle des femmes et des jeunes filles dans l'éducation, les sciences et les nouvelles technologies en vue d'une Afrique émergente était le thème choisi au Mali. Diallo Kamassa Kliba, secrétaire exécutive de l'Organisation panafricaine des femmes, section Mali.
Nous avons vu que le monde s'est modernisé. Il y a eu des nouvelles technologies auxquelles les femmes doivent s'adapter. Et c'est dans ce sens que l'OPF a choisi le thème de l'éducation, des sciences et des nouvelles technologies. Nous sommes dans un monde globalisé et on met l'accent actuellement sur l'excellence. Et on ne peut pas être excellent aujourd'hui en faisant fi de ces technologies.
Au Mali, les femmes sont au nombre de 5 dans le gouvernement sur 31 membres, soit 20%, 14 sur les 147 au niveau de l'Assemblée nationale et 927 sur les 10 774 conseillers municipaux, soit moins de 10%. Pour inverser cette tendance, les femmes doivent se battre dans tous les domaines. Gakou Salamata Fofana, présidente des femmes ingénieures du Mali.
La science et les techniques sont liées à la vie. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Tout ce que nous faisons comme activité, même aujourd'hui parler à la télé, ça fait partie de la science. Parler au téléphone, ça fait partie de la science. Il faut démystifier pour faciliter. Il y a certaines dispositions que nous avons recommandées. Revoir le curriculum, prendre en compte la participation des filles. Et il faut aussi former les enseignants.
Dans les établissements scolaires, les filles commencent à s'intéresser aux matières scientifiques. Cela n'était pas le cas il y a de cela 10 ans.
J'ai choisi les sciences parce que la profession que je vais exercer, la médecine, ne peut pas se faire sans l'appui des sciences.
Au début, j'avais peur, mais les gens m'ont encouragé d'aller faire les sciences parce que c'est une bonne matière. Les mathématiques, c'est un peu difficile, mais en faisant des exercices, on peut s'en sortir. Bon, j'aimerais être ingénieure de la télécommunication.
Aujourd'hui au Mali, bon nombre de femmes excellent dans les domaines de l'élevage, la pêche, l'agriculture, à l'image de Djao Kadiatou Tall, qui est une Amazone dans le monde agricole au Mali. Elle cultive chaque année 5 hectares.
Quand on arrive à faire 70 à 80 tonnes par hectare, avec le nombre d'hectares qu'on a, les femmes qui sont dans l'agriculture souhaiteraient qu'on puisse consommer malien.
De plus en plus, les femmes maliennes commencent à prendre conscience. Elles n'attendent plus pour être servies. Elles se battent comme les hommes afin de mériter leur poste. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Dans le magazine au féminin de La Voix de l'Amérique, écoutez à présent Gaëtan Moutou, principal chercheur d'Amnesty International sur le Mali. Il revient sur un rapport dénonçant des violations des droits des enfants au Mali. Écoutez-le au micro de Camille Gros-Didier.
Depuis le début du conflit en 2012, il y a des enfants, dont des adolescents, qui ont été recrutés à la fois par des milices pro-autorité malienne et ensuite par des groupes d'opposition armée, dont Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ces deux groupes armés ont utilisé des enfants soldats pour aller combattre lors du conflit dans le nord Mali. Et à la suite de l'intervention française et africaine en janvier 2013, plusieurs enfants, certains n'avaient aucun lien avec le conflit, ont été arrêtés et détenus à la fois à la prison civile de Bamako et ensuite au camp 1 de la gendarmerie. Ces mêmes enfants étaient détenus en compagnie d'adultes, ce qui est contraire aux instruments internationaux sur la protection de l'enfant ratifiés par les autorités maliennes. De plus, les autorités maliennes s'étaient engagées auprès des Nations Unies, de remettre tous les enfants arrêtés en lien avec le conflit à des organismes de protection de l'enfance.
Et vous avez des mots relativement durs pour le gouvernement malien que vous accusez de bafouer les droits humains.
Derrière les mots, il y a autre chose. C'est parce que les autorités maliennes ont ratifié des conventions internationales et nous demandons aux autorités maliennes de respecter les engagements qu'elles ont pris vis-à-vis de l'opinion internationale et vis-à-vis de leur propre gouvernement.
On continue notre balade malienne pour un autre regard sur les enfants qui auront la chance de retrouver bientôt les bancs de l'école. En effet, à l'occasion de la rentrée scolaire prévue en octobre, les acteurs de l'éducation lancent une campagne dans le nord du pays intitulée « Projet d'appui à l'amélioration de l'éducation dans la région de Gao ». Le projet qui couvre les régions de Gao et de Tombouctou vise notamment à la création d'espaces temporaires au profit des élèves et des enseignants. Voici un reportage de notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
La cérémonie de lancement du projet de l'amélioration de l'éducation dans la région de Gao a vu la participation des autorités administratives, politiques, les responsables de l'éducation, les parents d'élèves et les partenaires de l'école. La crise malienne a sérieusement touché les écoles de la région. Le retour de nombreux déplacés exige alors la création d'espaces pour accueillir les apprenants pour la rentrée prochaine. Abdoulaye Alassane, directeur adjoint de l'Académie de Gao.
Pendant la crise, nous avons eu beaucoup de locaux qui ont été délabrés, saccagés, et avec le retour des déplacés et des réfugiés, donc on n'arrive pas à contenir tous les enfants dans les salles de classe. Les salles de classe n'étant pas réhabilitées, avec l'INSEE, nous avons trouvé l'initiative de faire justement des espaces temporaires d'apprentissage pour permettre à ces enfants-là d'avoir accès à l'école dans des conditions minimales d'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que dans les 11 communes nomades, l'école n'est pas véritable. Donc il y a un retour difficile en ce sens que d'abord les enseignants ne sont pas retournés, mais également il y a beaucoup de populations qui ne sont pas revenues dans leur site d'origine. Donc l'école n'est pas totale.
Pourquoi donc accompagner une telle initiative? Le représentant président de l'UNICEF à Gao, Mohamedou Fall.
Ce projet rentre dans le cadre de cette campagne de retour à l'école. Comme vous le savez, après la crise, l'école a été le milieu qui a le plus souffert de cette crise en termes d'infrastructure, mais aussi en termes d'équipement et de kits. Le projet s'évalue à environ plus de 300 millions de francs CFA pour Gao. Mais il couvre aussi 96 abris temporaires à Gao et 188 abris temporaires à Tombouctou. Donc c'est un projet important.
Le projet de l'amélioration de l'éducation sera exécuté par 6 ONG nationales, dont 3 de Gao. Il s'agit des ONG ACAS, CRAT et Gardel. Il se déroulera sur 4 axes fondamentaux. Soumaïlou Soumaré, président de l'ONG CRAD pour la région de Gao.
Le premier axe, c'est vraiment la mise en place des espaces temporaires, des genres de hangars qu'on va construire, qui vont être d'une garantie d'une année. Et dans chacune des écoles, il est prévu au moins 3 salles de classe avec les dimensions standards, c'est-à-dire les dimensions d'une classe normale, 9 sur 7. L'autre axe sera la distribution des kits qui va être faite en faveur de toutes ces écoles-là retenues. Le troisième axe sera la formation. Il est prévu une formation en faveur des comités de CGS et des comités AME dans toutes ces écoles. Nous allons également appuyer ces CDPE à concurrence de 300 000 francs CFA pour faire des activités génératrices de revenus. En dernier ressort, les actions de sensibilisation.
Pour la directrice du CAP de Gao, Oulaymatou Meiga, bénéficiaire, la création de ces abris va soulager les élèves, les enseignants et les responsables de l'éducation.
C'est vraiment une épine qu'on m'enlève du pied parce qu'actuellement, les élèves sont tellement nombreux dans les classes qu'on ne sait même pas comment faire. On a fait la double vacation, la double division, mais ça n'a pas résolu le problème. Aujourd'hui, avec la construction de ces abris temporaires, bien que ça soit temporaire, quand même, ça nous permet de souffler. Quand on a un abri des normes d'une classe normale quand même, ça permettra de diviser une classe de 150 élèves en deux classes. C'est ça l'épine que l'UNICEF a enlevée du pied de l'éducation aujourd'hui.
Le projet de l'amélioration de l'éducation est financé par l'UNICEF et ses partenaires à hauteur de 335 501 376 de nos francs. Kao Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Auditrices et auditeurs de La Voix de l'Amérique, avant de refermer le magazine au féminin, direction la RDC, Goma, dans le Nord Kivu, où certaines femmes qui travaillent sont confrontées à la grogne de leurs propres époux qui préfèrent les savoir à la maison. Primo Pascal Roudaïgua s'est intéressé de près à ce problème de société.
Plusieurs femmes dénoncent l'aliénation de leur droit de travailler par leurs époux. L'une d'elles exerçait le commerce et d'un coup, elle a eu l'ordre d'arrêter l'activité pourtant lucrative pour sa famille.
Ma belle-sœur était venue m'intéresser pour exercer le petit commerce avec d'autres femmes pour subvenir à certains besoins élémentaires de mon foyer. J'ai disposé de peu de sous pour commencer. Nous quittions la maison à 5 heures du matin pour nous rendre au Rwanda, amener des souliers usagés. Un jour, je suis rentrée à la maison aux environs de 19 heures et mon mari n'a pas bien digéré ce retard. Et dès lors, il m'a interdit de reprendre avec ce commerce. Il m'a demandé de s'occuper de mes enfants.
Certains hommes interrogés à ce sujet parlent de l'injustice envers les femmes.
Je ne peux pas encourager cette mentalité. La femme contribue aussi au développement de la société.
D'autres hommes, par contre, pensent que les femmes deviennent insoumises et incontrôlées quand elles ont une activité lucrative.
Les femmes aussi se mécomportent d'une part. Cela peut causer à ce que l'homme refuse dans la maison qu'on ne doit pas travailler.
Rachel Mouloulou, présidente de l'Association des femmes unies pour le développement endogène et intégral, s'insurge contre les hommes qui bloquent l'épanouissement de la femme.
Le problème, c'est l'orgueil des hommes. L'homme est mécontent de la promotion de la femme. Cet homme-là d'aujourd'hui, pourtant civilisé, veut pérenniser les anciennes coutumes, promouvoir des religions qui disent même que la femme n'a même pas le droit de parler devant les hommes.
Pour Marcelin Mouchoko, défenseur des droits humains, les femmes mariées qui travaillent devaient rapprocher la coutume au modernisme pour éviter les querelles dans leur foyer.
La femme devait normalement comprendre qu'en qualité de maman, en qualité de la femme de ménage, elle devait normalement continuer à vivre tel que, je ne dis pas la coutume l'oblige, mais tel que avec son modernisme l'oblige.
D'autres femmes ont tout simplement décidé de casser le mariage et évoluer librement. Goma, Primo Pascal Rudahigua pour La Voix de l'Amérique.
Arrête.
Good night and good luck. This is what...